Bienvenue à cette deuxième partie du discours. On continue à explorer l'impermanence en tant que compréhension et la permanence en tant que outil de lâcher prise. Et donc on a entendu dans le texte du Bouddha, je le relirai et puis je lirai parce qu'il continue ce texte, mais on a entendu qu'il conseille vraiment à ses moines d'observer l'impermanence. Et donc, on comprend que le but de cet exercice, le but de cette manière de méditer, va être, comme on le disait tout à l'heure, à la fois pour permettre d'aller plus profondément dans la méditation, c'est-à-dire de lâcher plus loin les constructions mentales, et à la fois de s'intégrer dans le quotidien. Donc il y a cette double direction, en fait, qu'on va essayer de comprendre un petit peu mieux. On a déjà un peu vu la partie quotidien, quand je parlais de, par exemple, hier avec mon fils, comment c'était important pour moi d'avoir cette conscience de la permanence dans le moment, me permettait de mieux vivre le moment. On l'a un peu compris, mais en méditation, comment est-ce que ça fonctionne en fait? Qu'est-ce que ça peut nous amener d'avoir cette conscience? Alors le Bouddha, il le nomme ici en fait. Je vais reprendre le début du texte et puis je vais le continuer. Donc, il explique à Ananda, son disciple, « Et qu'est-ce, Ananda, que la perception de la permanence? En cela, un bhikkhu s'étant rendu dans la forêt, au pied d'un arbre ou dans un local vide, considère ceci. La forme est impermanente, le ressenti est impermanent, la perception est impermanente, les constructions sont impermanentes, la conscience est impermanente. Donc tout ce qui est observable est impermanent. Il demeure ainsi à observer l'impermanence dans les cinq accumulations d'attachement, c'est-à-dire tout ce à quoi l'esprit pourrait s'attacher, il le voit comme impermanent. Voici, Ananda, ce qu'on appelle la perception de la permanence. Donc là, en fait, ce qu'il dit, c'est que quand on voit l'impermanence d'une chose, l'esprit va avoir moins tendance à s'y attacher. C'est-à-dire, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de l'histoire du Bouddha, c'est presque ça le début de l'histoire du Bouddha. C'est, pour ceux qui la connaissent, je ne vais pas la faire parce qu'elle est longue, mais donc c'était un prince qui avait tout en fait, pour être heureux, et puis qui un jour s'est rendu compte que bah, tout ça, ça allait disparaître un moment. Il s'est rendu compte de la maladie, du vieillage, de la souffrance et de la mort. Et l'histoire le fait d'une façon assez dramatique, où il se rend compte de tout ça un jour, où il sort de son château en un jour. Et donc, en fait, il se rend compte de quoi? De la permanence. Il se rend compte qu'en fait, tout ça, c'est pas permanent. Et ça le questionne largement, et c'est ça qui initie son chemin. Et plutôt que d'essayer de fuir cette notion et cette réalisation de la permanence en se perdant dans profiter un max, profiter un max, profiter un max, il va à l'inverse, vers plus de privation, en fait. Et il va, comme il dit là, essayer de rester conscient plutôt que de se divertir, de ne plus le voir, genre ça lui aurait fait peur et je ne veux surtout plus voir, en fait, la présence des petites morts et de la mort ultime. Au contraire, ce qu'il conseille, c'est de tout le temps le savoir, en fait, de vivre en le sachant. Alors plus loin, dans le même Girimananda Sutta, il dit, il s'entraîne, donc le moine s'entraîne, et là déjà le mot dit beaucoup, il s'entraîne. Je vais inspirer en contemplant l'impermanence. Je vais expirer en contemplant l'impermanence. Inspirer, expirer, c'est parce que la respiration, dans les méditations du Bouddha, c'est la base, c'est la maison en fait. C'est là que quand l'esprit s'évade, on revient. On revient à l'inspiration parce qu'elle est toujours ici, maintenant. Et elle nous ancre, elle ancre l'esprit. Donc, comme nous on l'a fait, on a l'inspire, l'expire. Et on inspire et on expire, mais tout en contemplant la permanence. Donc c'est ce qu'il conseille à son moine. Je vais inspirer en contemplant l'impermanence et je vais expirer en contemplant la permanence. Il s'entraîne, je vais inspirer en contemplant le détachement. Il s'entraîne, je vais expirer en contemplant le détachement. Il s'entraîne, je vais inspirer en contemplant la cessation. Il s'entraîne, je vais expirer en contemplant la cessation. Il s'entraîne, je vais inspirer en contemplant le désintéressement. Il s'entraîne, je vais expirer en contemplant le désintéressement. Voici, Ananda, ce que l'on appelle la présence de l'esprit sur la respiration. Alors, on va reprendre ce processus. Et déjà, pour finir, j'y viendrai après. Il s'entraîne, je vais inspirer en contemplant la permanence, on vient de le voir, je vais expirer en contemplant la permanence. Il s'entraîne, je vais inspirer en contemplant le détachement. Donc, en fait, ce texte suggère, c'est que en amenant la notion d'impermanence dans la méditation, se produit un détachement qui est observable. Et il conseille au moine, vois-le. Au moment où il y a le détachement, vois le détachement. Et ainsi, le moine s'entraîne en observant le détachement. Et il inspire en contemplant le détachement. Et il expire en contemplant le détachement. Il devient conscient, en fait, que le fait d'être conscient de l'impermanence engendre un détachement. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on voit clairement, où l'esprit voit clairement, et qu'il n'y a plus l'ignorance qui nous fait croire que si je vais avoir ceci, je serai heureux, si je réussis à devenir cela, je vais être heureux. Comme si dans l'idée du Bouddha, tout ce qui va disparaître un jour ne peut pas nous amener un bonheur durable. Donc automatiquement, on ne peut pas s'attacher à telle ou telle ou telle chose pour trouver ce bonheur que l'on cherche dans la recherche spirituelle. Rien ne peut nous amener à la satisfaction qu'on cherche vraiment dans tout ce qui a un début, une durée et une fin. Et donc, quand on voit clairement que, par exemple, une pensée va venir d'un gâteau au chocolat, par exemple, eh bien, le moine verra que saura que ce gâteau au chocolat, en fait, à un moment, même s'il l'avait, à un moment, il serait fini. Il serait revenu là. Donc, ce n'est pas la peine de poursuivre ce genre de bonheur. Parce que la satisfaction ne sera pas permanente, elle sera impermanente. Et du coup, elle va contenir en elle-même de la frustration. Donc ce n'est pas un chemin à suivre. Parce que c'est impermanent, ça ne peut pas conduire à une satisfaction profonde. Et donc c'est à délaisser. Alors qu'est-ce qui se passe dans la méditation du moine quand il voit ça? Eh bien automatiquement, ce qui d'habitude aurait mis son système de réflexion, de recherche, d'envie, son jeu des émotions, ah, peut-être je devrais me lever, aller, je sais qu'il en reste un peu en cuisine, je devrais peut-être aller chercher un peu de gâteau au chocolat et tout ça. Si il voit en fait que la satisfaction qu'il va pouvoir avoir est impermanente, elle ne va pas amener cette satisfaction qu'il cherche. Ce n'est pas pour ce genre de satisfaction qu'il médite, il cherche quelque chose de beaucoup plus profond, il cherche quelque chose de beaucoup plus fondamental en fait comme satisfaction. Alors en fait, cette pensée n'aura pas de prise. Et du coup, il va rester non agité. Il aura un certain détachement par rapport à ce désir qui pourrait émerger. Il saura que le désir aussi, la sensation de désir qui va émerger, qui peut prendre parfois très fort, on le sait comment le désir peut prendre, mais cette sensation, là, elle est impermanente. Celui qui a le courage de rester assis et de regarder le désir, tout ce qu'il verra, c'est qu'à un moment, le désir s'en va. On peut avoir toutes sortes de désirs pendant la méditation, mais 10 minutes après, il n'est plus là. Et si on le regarde en sachant que le désir ne va pas rester, c'est-à-dire en voyant son impermanence, alors le désir n'a plus la même prise sur nous. Il est un peu plus à distance. Et donc, cette sensation-là, en fait, on peut, et c'est ça, en fait, notre travail ici, c'est de le comprendre, mais après, c'est de le voir. C'est ça notre travail. Et c'est ça qu'on va faire dans les mois qui viennent. C'est de vraiment essayer, en fonction de ce que vous comprenez, essayer de mettre en place ce regard qui est que, par exemple, vous êtes en méditation, quelque chose vient et est un peu difficile, ou quelque chose vient et est attirant, que ce soit un ou l'autre, c'est impermanent. Et qu'est-ce qui se passe quand on sait que c'est impermanent? Plutôt que d'être pris par à ce moment-là, on va pouvoir le laisser partir. Plutôt que d'essayer de le maintenir, à ce moment-là, ça va pouvoir passer à autre chose. Quand une perception émerge, toujours dans les termes du Bouddha, il parle de Vedana, c'est une réponse. Il y a une réponse émotionnelle à toute perception, qui va être soit plaisante, déplaisante ou neutre. C'est-à-dire qu'on va avoir une pensée, il va y avoir un son, il va y avoir, quelle que soit la perception, en fait, une émotion, on va l'aimer ou on ne va pas l'aimer, ou alors elle nous laisse indifférents. Et à cette réaction première, il va y avoir une seconde réaction qui va être que si on aime, l'exemple classique, c'est le chant d'un oiseau, et là, on voudrait bien que l'oiseau continue un petit peu. Il va y avoir, même si on ne se le dit pas en pensée, on aime ce moment et on voudrait bien qu'il dure. Si c'est des klaxons de voiture, de l'agitation et tout ça, il va y avoir quelque chose qui se crispe un peu, on peut le sentir même dans le corps. Et dans l'esprit, l'esprit va se crisper et on voudrait que ça s'arrête. Donc quand on aime, on voudrait que ça dure, quand on n'aime pas, on voudrait que ça s'arrête. Et si c'est neutre, s'il y a une perception neutre, en général, on s'en désintéresse. S'il y a trop de perception neutre, à ce moment-là, ce sera de l'ennui. Et donc, quand on est en méditation et qu'il y a quelque chose qui émerge et qu'on aime, on va essayer de le faire durer. Parfois, c'est complètement inconscient, mais on va essayer de prolonger ce qui est agréable. Et quand il y a quelque chose qui est désagréable, on voudrait que ça cesse directement. Si, par exemple, il y a une petite douleur dans le corps, eh ben, on va avoir envie qu'elle cesse. Et peut-être qu'on va se dire qu'on ne peut pas vraiment méditer tant que cette douleur est là, qu'elle est gênante, qu'elle nous empêche de méditer. Et peut-être qu'elle va générer du coup des histoires de « peut-être j'ai cette douleur-là parce que je ne fais pas assez d'exercice physique dans ma vie ». Ou peut-être que j'ai cette douleur-là à cause de quelque chose qui s'est passé dans mon enfance, ou bien peut-être que c'est un processus psychologique et tout ça, et on va avoir peu... Et papancha, ça s'appelle. C'est-à-dire la prolifération des pensées qui démarre sur base d'une chose à laquelle on a réagi. Il y a eu cette perception, sensation physique, qui a été appelée douleur. C'est déjà une étape. Elle a été appelée douleur. C'est connoté comme étant négatif. La réponse émotionnel, c'est « j'aime pas », et la réponse suivante, c'est « je voudrais que ça parte ». Et après ça, et du coup, en fait, quand on fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On fige la douleur. C'est-à-dire que plutôt que de laisser la sensation physique être là le temps qu'elle serait là et puis partir, en fait, toute notre attention qui aurait pu laisser la douleur faire partie d'un tout, parce qu'il y a plein d'autres choses en même temps, il y a quand même encore des sons, il y a quand même encore la respiration, il y a quand même de temps en temps une pensée ou l'autre. On s'est concentré sur la douleur, elle a pris toute notre attention et du coup elle prend tout l'espace de notre conscience. Elle devient la seule histoire de notre méditation, elle est déplaisante, elle est désagréable, on cherche comment faire pour s'en débarrasser et du coup en fait, ça c'est la saisie. On a saisi la douleur. Pareil si c'est du désir. Quelque chose vient, le désir peut-être, un projet qui est vachement enthousiasmant, et du coup, là, on s'en remet à réfléchir aux prochaines étapes pour manifester ce projet, en plus on a une bonne nouvelle et tout ça, et hop, ça c'est de la saisie aussi. Tandis que le moine, lui, il va s'entraîner en contemplant l'impermanence, c'est-à-dire que sachant l'impermanence de la douleur, il peut la laisser être. Elle a sa durée. Et il sait que d'essayer qu'elle parte, c'est-à-dire de ne pas l'autoriser à être là, fait qu'il va la saisir et qu'en fait, il va la compliquer et la faire durer. Donc, il regarde la perception de douleur avec une certaine égalité d'esprit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Son esprit ne bouge pas. La douleur se produit dans l'espace de sa conscience, mais ne se concentre pas dessus. Il n'y a pas ce mouvement qui resserre l'attention et qui fait venir la douleur d'une façon prédominante, proéminente à son regard et qui prend tout l'espace. Et de la même manière, un projet intéressant ou un désir, il sait très bien que, ça va passer. Donc il le regarde comme étant impermanent. Ce désir est là pour le moment, le désir de célébrité, le désir de réussite, le désir du gâteau au chocolat ou d'un verre de vin. Il vient pour le moment et puis il va passer comme tout le reste. Et du coup, il empêche son esprit de saisir. Parce que dans ces mouvements de saisie, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? La sensation intérieure, c'est mouvement. L'esprit va là, il veut ça, il veut plus ça, il voudrait plus de ça, il voudrait que ça dure, il voudrait que ça s'arrête. Et en fait, on est là, mais j'y arrive pas à méditer. Ça bouge tout le temps, j'ai tout le temps plein de pensées. Mais pourquoi on a tout le temps plein de pensées? On a tout le temps plein de pensées parce que ces pensées correspondent à des choses dans lesquelles on investit un espoir. On investit, elles nous intéressent nos pensées. Et c'est nécessaire, hein, c'est comme ça que fonctionne l'homme. Mais en méditation, on essaie de faire autre chose. En tout cas, dans ce style de méditation. Donc, en fait, pour arriver à une égalité d'esprit, ce détachement est nécessaire. Et la conscience de la permanence est créer le cadre qui nous permet, en fait, de ne plus saisir. Parce que c'est clair, à partir du moment où ce qu'on cherche, c'est autre chose, que c'est une satisfaction beaucoup plus profonde que l'investissement dans la satisfaction des désirs, que ce soit les désirs sensuels, que ce soit les désirs de réussite, d'approbation. À partir du moment où on sait que ce qu'on cherche est une satisfaction qui est plus profonde, mais d'une autre nature aussi, que la poursuite de ces désirs ne va mener qu'à la frustration suivante et la frustration suivante, le lâcher-prise est beaucoup plus simple. Donc, en inspirant, en contemplant la permanence et en expirant, en contemplant la permanence, ce qu'il dit au moins, c'est qu'il dit en fait, ce que tu vas vivre, c'est du détachement. Ça va entraîner un détachement. Et à ce moment-là, ce qu'il lui conseille, c'est d'observer le détachement. Donc, il continue à, quand des phénomènes émergent, à les voir comme impermanents, mais il ressent et il est conscient du détachement qui est généré par ce regard. Et puis après, il continue parce que si on reste en méditation et qu'on continue à laisser notre méditation s'approfondir, à ce moment-là, ce que le Bouddha nous dit, c'est « je vais inspirer en contemplant la cessation, je vais expirer en contemplant la cessation ». Alors la cessation de quoi ? Ben, la cessation de l'activité, le mouvement intérieur. S'il n'y a plus de saisie, s'il y a de moins en moins de saisie, en fait, il y a une cessation du mouvement intérieur, il y a une cessation de la construction. C'est-à-dire qu'on n'est plus là avec nos petits plans de comment on va faire pour demain ceci, pour demain cela. Il y a tout un... En fait, dans la cessation, il y a une cessation de ce qui d'habitude est toujours là dans notre quotidien. Il y a une tranquillité d'esprit qui s'installe, ce qui veut dire qu'il y a une absence en fait, de choses qui sont d'habitude tout le temps là. Et ça, il dit au moins, contemple la cessation. Contemple en fait l'effet de la méditation, l'effet de la présence de l'esprit sur la respiration. Contemple ce que ça fait, soit au courant, remarque, et remarque la cessation parce qu'elle nous dit quelque chose. La cessation, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qui on est quand notre esprit n'est pas agité. Elle nous dit qui on est quand on a une relation différente au temps, parce que le temps aussi ralentit. Parce que moins il se passe, moins il y a de mouvement, moins il y a de perception du temps. La cessation, c'est aussi la cessation du temps. C'est la cessation de la perception. Quand on parlait tout à l'heure de... au début, quand on médite avec la permanence, on a l'impression qu'il y a plein de choses. On est hyper conscient de plein de perceptions différentes. Mais au fur et à mesure que l'esprit va se tranquilliser, va se poser, va se calmer, on va percevoir de moins en moins le monde. On va percevoir de moins en moins l'identité. C'est-à-dire qu'on aura un ressenti de notre existence même, mais on aura moins le contexte dans lequel se produit notre existence. Il n'y aura plus des pensées de notre métier, il n'y aura plus des pensées de hier et demain, il n'y aura plus des sensations de ce qui s'est passé quand on était jeune. Tout ça n'apparaît plus parce qu'il faut une certaine activité cérébrale pour que ça soit là dans notre moment présent. Et là, c'est calme. Alors, il n'y a plus ça. C'est la cessation. Contemple la cessation que le lâcher-prise a induit. Il s'entraîne, je vais inspirer en contemplant le désintéressement et je vais inspirer en contemplant le désintéressement. Parce qu'en fait, dans ce moment de cessation, une des qualités de ce moment-là, c'est justement, c'est le nom du disciple à qui il parle, c'est Ananda, la félicité. C'est-à-dire une espèce de sensation que, alors c'est pas la peine de partir dans des grands délires mystiques, on a tous, d'une manière ou d'une autre, la connaissance, en fait, d'une espèce de contentement profond dans certains moments. On a la sensation que rien ne manque en ce moment. Ça peut être dans une balade en forêt, ça peut être un moment de tranquillité, un moment de paix en écoutant un morceau de musique ou en méditation. Et en méditation, parfois, pendant quelques moments, on peut faire l'expérience d'un grand moment de paix. Dans ce moment de paix, n'émerge plus tout ce qui d'habitude émerge, n'émerge plus beaucoup de perceptions, n'émerge plus beaucoup de cette identité superficielle qui s'est construite dans le temps, n'émerge plus la sensation du temps. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de très nourrissant. En fait, il ne se passe pas grand-chose, mais on ne voudrait surtout pas que ça s'arrête à ce moment-là. C'est agréable, c'est nourrissant, il y a un contentement dans ce moment-là. Et alors, il va y avoir un désintérêt de tout ce qui d'habitude nous intéresse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, si une pensée émerge du même gâteau au chocolat qui nous a un petit peu agité il y a 20 minutes, eh bien, cette pensée, elle n'a plus aucune puissance d'attraction, elle n'a plus aucun attrait en fait. Parce que par rapport à ce bonheur simple de juste être là, un gâteau au chocolat, ça n'a aucun attrait, ça n'a aucune force. Et donc, il y a des intéressements. Il va y avoir... Plus rien ne peut intéresser l'esprit à ce moment-là. Il est comme baigné en lui-même et c'est suffisant. Alors, le but de cette expérience qu'on peut mener en méditation, et c'est comme un curseur, hein, on peut aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, beaucoup plus loin. On peut avoir des grands moments de cessation. Il y a même des moments de cessation où ça peut faire peur, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude en fait d'être avec si peu d'identité. Le but n'est pas d'aller de plus en plus loin et puis de rester comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. On a besoin du retour de notre identité et tout pour pouvoir fonctionner. Et heureusement, c'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre la construction de l'identité, de voir comment elle peut parfois être présente et parfois pas. Et de réaliser en fait que cette identité, celle qu'on connaît le mieux de nous-mêmes quand on dit « Ah, moi je sais, je suis comme ça et tout, je suis né là, j'ai fait ci, j'ai fait ça », cette identité en fait qui est notre identité sociale et notre identité, notre image de nous-mêmes et cette identité fonctionnelle en fait qui nous permet de fonctionner, on commence à comprendre enfin qu'elle ne définit pas les profondeurs de notre être. On commence à faire l'expérience de nous-mêmes au-delà de cette identité. C'est-à-dire que si les éléments de cette identité changent, qu'on change de métier, qu'on change de ceci, qu'on devient ceci, maintenant on peut même changer de sexe, hein, on peut changer tous les éléments de cette identité, ça ne changera pas la qualité et la nature de cette expérience qu'on fait au moment de la cessation. Ça ne changera absolument pas, rien du tout, zéro. Alors là, quand on voit ça, quand on sait ça, quand on est témoin de ça, quand on, en répétant encore et encore et encore cette expérience, on commence à comprendre le phénomène de l'identité et de la construction de l'identité. Vous savez, cette identité qui s'est construite dans le temps depuis qu'on est né, qui s'est construite, qui s'est développée, sur laquelle on a vachement bossé, et on bosse tous les jours d'ailleurs sur la construction de cette identité, eh bien, on commence à voir en fait qu'elle est parfois plus présente, parfois moins présente, parfois presque plus présente du tout. On fait l'expérience de soi avec très peu d'identité. Et puis après ça, il suffit qu'on sorte et quelqu'un nous insulte et elle est toute là. Et donc là, à ce moment-là, on est à un autre endroit de nous-mêmes. Une identité très forte, très séparée, avec beaucoup de « je suis ceci, je ne suis pas cela hein, ». Hein, hein. Et puis après ça, on va aller marcher dans la forêt, ça va se poser un petit peu. Et on a moins besoin d'identité pour marcher en forêt. Donc du coup, il y a tout un tas de cette identité-là qui n'est plus là dans notre expérience du moment. Et on voit cette identité, on voit comme un curseur qui monte et qui descend. Elle est plus là, elle est moins là, elle est plus là, elle est moins là. Et à des moments, elle est presque plus là du tout, en fait. Et le Bouddha, il dit, contemple ça. Contemple ça. Quand ton esprit est dans un état de non-saisie, qui ne saisit plus, je veux ceci, je ne veux pas cela, je veux ceci, je ne veux pas cela, eh bien, il y a un impact sur la sensation du temps, il y a un impact sur la perception du monde, et il y a un impact sur l'identité. Quel est cet impact ? Qui es-tu dans ce moment-là ? connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux de Socrate. On découvre quelque chose de nous-mêmes qui est au-delà de ce qui a été construit de par nos expériences, de notre vie, du quotidien, de notre éducation, de notre société. Peut-être ce qu'on est au-delà d'un certain formatage, sans vouloir le mettre d'une façon péjorative, parce que c'est comme un ordinateur, un disque dur sans formatage, en fait, il ne peut rien faire. Et nous, c'est pareil. On a besoin de ce processus d'apprentissage qu'on a vécu, mais il ne nous définit pas au niveau de notre nature profonde. Mais ça, on ne le sait pas. Là est l'ignorance dont le Bouddha parle. Et parce qu'on croit qu'on est ce qu'on n'est pas vraiment, à ce moment-là, on engendre tout un tas de souffrances pour nous-mêmes et pour autrui. Parce qu'on a des désirs faramineux, et on le voit au niveau de notre société, on a des désirs faramineux juste pour être heureux. Parce qu'on croit qu'on est telle personne, née à tel endroit, faisant ceci, faisant cela, et qu'on est ça, ok, mais qu'on n'est que ça. Et que du coup, il n'y a aucune spiritualité, il n'y a aucune... Du coup, on est que matière et évolution de matière dans le temps. Et à ce moment-là, on est dans une poursuite continuelle de chercher la satisfaction à l'extérieur, à travers le fait de posséder ou de devenir. Et de découvrir, en fait, cette identité profonde est extrêmement relaxant. Et nous permet de mettre moins de pression sur cette identité construite, moins de pression, moins de demandes sur la planète, sur la société, sur le monde en général, et sur nous-mêmes. Et donc le Bouddha, il nous dit, ça commence, là, dans son approche, quelque part, ça commence avec la contemplation de l'impermanence. De voir que rien ne dure libère. Ça permet de lâcher prise. Et cette dernière phrase, voici Ananda, ce que l'on appelle la présence de l'esprit sur la respiration. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas juste d'apaiser notre esprit en observant la respiration, parce que, alors je le répète à chaque fois, c'est très important d'être le témoin de ça. Nos pensées vivent et continuent parce qu'on leur prête attention. Si on prend l'attention qui est consacrée à nos pensées et qu'on les amène ailleurs que dans la pensée, des sons, des sensations physiques, une image, un paysage, la rivière, la respiration, on l'amène ailleurs que dans le domaine de la pensée ralentit. La pensée a besoin de notre attention pour continuer. Ça, c'est fondamental à remarquer. À chaque fois, c'est ce qu'on fait en méditation. Je remarque que je suis en train de penser, que je suis distrait. Ok, je reprends mon attention, je la ramène à la respiration. Qu'est-ce qui se passe pour la pensée? Automatiquement, elle ralentit. Constatez-le. Mais ce que le Bouddha nous dit, c'est pas suffisant. Vous n'allez pas arrêter la problématique. C'est comme si on faisait une pause, en fait. Mais si... on croit toujours que toutes ces pensées qui sont agitées à croire il me faut ceci, il me faut cela, sinon je ne suis pas en sécurité, ou sinon... C'est à partir du moment où on n'a pas changé quelque chose dans notre compréhension, la pensée, dès qu'on arrête ce phénomène de concentration, de concentrer notre attention ailleurs, la pensée va reprendre l'attention et rien n'aura vraiment changé. Ce que le Bouddha nous conseille, c'est... d'amener la présence de l'esprit sur la respiration, c'est d'amener, en plus de dégager la pensée, l'attention des pensées pour la ramener à la respiration, en plus, c'est d'amener la présence de l'esprit, c'est-à-dire dans ce sens-ci, une compréhension. Présence de l'esprit, c'est la compréhension dans ce cas-ci de la permanence. Et voici Ananda, ce qu'on appelle la présence de l'esprit sur la respiration. Il y a la conscience de la respiration et la conscience de la permanence. La conscience de la permanence n'est pas perçue par les cinq sens. C'est la présence de l'esprit qui sait et qui regarde toute chose comme étant impermanente. C'est une manière de voir le moment. Il le dit dans le Sutra du Diamant. Ainsi devriez-vous contempler ce monde éphémère. Il conseille de contempler le monde d'une certaine manière. Ainsi devriez-vous contempler ce monde éphémère, comme une goutte de rosée ou une étoile à l'aube, une bulle dans le ruisseau, un éclair dans un nuage d'été. une lampe vacillante, un fantôme, un rêve. Voyez le monde comme une goutte de rosée, qui a la même durée, la même solidité, presque la même espérance de vie qu'une goutte de rosée ou une étoile à l'aube. Ainsi, devriez-vous contempler ce monde. Là, il ne parle pas juste de pleine conscience des cinq sens. Il parle de la présence de l'esprit sur les cinq sens. Oui, contempler le monde avec les yeux, mais le voir d'une certaine manière. Parce que cette manière de voir va avoir un impact sur la manière dont on le vit, ce monde. Un impact qui libère, un impact qui permet un certain détachement et qui libère la capacité d'aimer, qui crée moins de souffrance. Une citation de Rumi. À chaque instant, écrit Rumi, tu meurs et tu reviens à l'existence. À chaque instant, tu meurs et tu reviens à l'existence. C'est une autre manière de voir ce qu'on vit dans les moments de présence et d'absence de la méditation, par exemple. Nous, on a l'impression qu'il y a une continuité. On est continu. Et de temps en temps, on est là, de temps en temps, on n'est pas là, mais comme si on était distrait, pas distrait. Lui, là, il induit dans sa parole une autre manière de voir, un peu similaire à celle qu'on a explorée. À chaque instant, le monde est renouvelé. Et nous ne sommes pas conscients de son renouvellement puisqu'il demeure le même en apparence. La vie s'y déverse à jamais, à nouveau, comme le fleuve, bien que corporellement, elle paraisse continue. La vie s'y déverse à jamais, à nouveau, comme un fleuve. Et donc, c'est une manière de voir. Oui, c'est ah ben tiens, et qu'est-ce qui se passe en fait si on regarde la vie comme ça? C'est ça la vraie question. C'est pas d'y croire. C'est pas commencer à avoir un débat avec des gens qu'on rencontre et des gens qui vont dire ah ben la vie elle est là tout le temps. Et puis alors nous dire non, la vie elle est pas là tout le temps en fait. Hein. De temps en temps elle est là, de temps en temps elle est pas là. Elle apparaît au moment où on est conscient d'elle et au moment où il y a plus de conscience, il y a plus non plus le monde. Vous voyez, c'est le même débat de nouveau que les en science. Hein. Alors, la permanence, quand Einstein disait à Niels Bohr, moi je ne crois pas dans ton interprétation de la physique quantique parce que je pense que la Lune, quand je ne l'observe pas, elle est quand même là. Ah, parce que Niels Bohr parlait en physique quantique, il ne parlait pas de la Lune, mais en physique quantique, il disait que la matière existe au moment où on l'observe. Et sinon, elle est une onde en fait, elle n'est pas matière. Ah donc, il y a le même débat au niveau de la science. Mais ici, le but n'est pas d'avoir un débat, de se dire en fait que non, le monde n'est pas permanent et que à partir du moment où on dort, le monde n'existe plus. Ce qui est d'ailleurs ce que vivent les enfants. Hein. Les enfants, souvent, je suis convaincu, moi, et j'ai des souvenirs aussi. La peur de dormir, parfois, c'est parce que tout s'arrête. Il n'y a plus de monde, en fait. Après, c'est après qu'on se dit, ben ouais, non, je dors, je ferme les yeux, le monde continue à vivre, et puis quand je rouvre, hop, je suis de retour à un monde qui a continué à vivre. Mais pour un enfant, c'est la cessation totale de tout, le moment où il dort. Et donc, c'est des manières différentes de voir et de regarder, en fait, ces présences, absences, ou cette présence en pointillé qu'on a dans nos journées et dans nos nuits. Le but n'est pas d'avoir une philosophie ou de dire « moi je crois plus à celle-là » ou « moi je crois plus à celle-là », c'est pas intéressant ça. Mais par contre, de voir ce qu'on vit quand on essaye de regarder le monde d'une manière ou d'une autre, ça c'est intéressant. Donc là, c'est ce que le Bouddha nous conseille de faire, c'est de s'entraîner à percevoir la permanence et de voir ce que ça fait. Il ne faut pas croire à la permanence ou développer juste d'une façon philosophique la compréhension de la permanence. Et de nouveau, la permanence, ce n'est pas très compliqué, mais après ça va, quand on parle de vacuité, là, la compréhension philosophique est bien plus complexe. Et le Bouddha, il pousse ses disciples à voir la vacuité, pas simplement à comprendre la vacuité, c'est voir la vacuité. Donc c'est très expérientiel, c'est dans le moment de la méditation, quand tu pratiques comme ça, qu'est-ce que tu vis? qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au flux de pensée? Qu'est-ce qui se passe à l'identification? Qu'est-ce qui se passe à la saisie? Est-ce qu'il y a moins de saisie? Est-ce qu'il y a plus de détachement? Quand quelque chose t'a saisi et que tu le vois comme étant impermanente, est-ce que c'est plus facile de lâcher prise ou est-ce que c'est pas plus facile de lâcher prise? Voilà, de faire des expériences comme ça et de voir, parce que c'est ça qui va permettre en fait que notre esprit pensant nous lâche un peu. Sinon, il faut une concentration énorme, il faut une force incroyable pour tenir notre attention éloignée du brouhaha et du vacarme qui attirent notre attention si l'esprit ne s'apaise pas. Tandis qu'en utilisant ce regard de l'impermanence, ça apaise l'esprit. Il n'a plus les mêmes raisons de faire ce vacarme. Méditer quand l'esprit est fort et qu'il n'a aucune raison de s'apaiser, c'est extrêmement difficile. C'est comme si on voulait méditer à regarder une rose alors qu'il y a une télévision à gauche et une télévision à droite qui braille des trucs avec des gens qui hurlent, qui se font égorger. Vous voyez, ça attire l'attention dès qu'il y a un son, dès qu'il y a un truc, du mouvement, de la couleur. C'est impossible de rester à regarder une jolie petite rose là. La télévision, elle va attirer notre regard tout le temps. Et c'est pareil, méditer avec un esprit qui n'a pas la connaissance et la compréhension de l'impermanence, c'est beaucoup plus difficile. La pleine conscience, sans la présence de l'esprit et la compréhension philosophique de certains aspects, elle est pratiquement impossible. Donc je pense que ce qu'il faut vraiment retenir de cette aventure dans laquelle on s'engage, c'est que c'est d'abord et avant tout pratico-pratique et expérientiel. Si par rapport à votre manière de méditer, si vous avez l'habitude de méditer simplement en quittant la pensée pour revenir au moment présent à travers la perception de quel que soit un des cinq sens, pour être dans le moment présent à travers quelque chose qui se passe maintenant, la respiration, les sensations physiques, les sons, en général c'est ces trois-là. Eh bien, ici, de rajouter la présence de l'esprit sur la respiration, ou la présence de l'esprit sur les sons, ou la présence de l'esprit sur les sensations physiques, de la présence de l'esprit sur ce qui se passe dans le moment, eh bien, ça va permettre de plus facilement apaiser l'esprit. Ça va permettre un lâcher-prise plus accessible et un approfondissement de notre expérience. C'est une étape nécessaire pour pouvoir aller plus loin avec nos méditations que juste de percevoir ce qui se présente dans le moment, sans aucun regard philosophique ajouté. Pour certaines personnes, c'est difficile à entendre. Il y a des réticences à la notion même de philosophique, à la notion de pensée. Et ça a été le cas pour moi pendant tout un temps de ma pratique, la pensée était presque devenue l'ennemi. C'était en méditation, quand je vais dans une retraite de méditation, eh ben, je quitte la pensée. Dès qu'il y a la pensée, je quitte la pensée. La pensée, c'est le cœur même du problème, c'est le cœur même de l'illusion, c'est ce qui crée la problématique. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il faut que je ramène de la pensée et un regard philosophique au cœur même de ma méditation. Pour certaines personnes, c'est difficile à entendre. Mais dans ce que dit le Bouddha et dans ma petite expérience, c'est absolument nécessaire. On ne pourra pas laisser l'esprit en dehors de la méditation. On ne pourra pas laisser la compréhension en dehors de la méditation. Et cette approche va permettre un plus grand lâcher-prise, qui va permettre une plus grande cessation. Et c'est quand cette approche sera mieux comprise et qu'il y aura plus une expérience faite par soi-même, alors des approches encore plus profondes trouveront leur place, comme celle de la vacuité. Comme celle de la vacuité qui est qui semble inaccessible et qui pourtant est le chemin du plus grand lâcher-prise, la vacuité. J'ai fini en relisant donc du coup cet extrait du Sutra du Diamant. Ainsi devriez-vous contempler ce monde éphémère, comme une goutte de rosée ou une étoile à l'aube, une bulle dans le ruisseau, un éclair dans un nuage d'été, une lampe vacillante, un fantôme, un rêve. Merci pour votre écoute. Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.